En deux mots, oui, effectivement, j'enseigne la littérature française à l'Université de Lausanne et à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. J'ai fait une thèse sur la science-fiction, donc j'enseigne, j'ai la chance d'être un des seuls chercheurs européens à pouvoir enseigner complètement sur la science-fiction. Et par ailleurs, moi, j'ai repris la maison d'ailleurs, donc le musée de la science-fiction de l'utopie et des voyages extraordinaires à Yverdon, il y a peu, ce qui me permet de pouvoir concilier à la fois mes intérêts de recherche, mais aussi mes connaissances du genre, avec des activités liées à des expositions, à montrer un peu l'esthétique et l'imaginaire qui se développe autour de ces problématiques-là. Et bon, bah, même si on n'enseigne pas la science-fiction féminine, mais ni masculine, enfin, on enseigne la science-fiction à l'université, j'ai eu la chance, il y a quelques moi de cela, d'être convié à une soirée qui a eu lieu au Bourg, qui est un café-théâtre à Lausanne, qui avait été organisée par une association féministe de Lausanne, qui s'appelle En voiture Simone. Voilà. Et j'avais fait une conférence là-bas pour développer un peu cette question-là. Donc je commence un peu à m'y connaître, même si un petit peu en tout cas, je ne suis pas un expert de la science-fiction féministe, mais j'avais envie de vous présenter peut-être une approche un peu plus littéraire de cette question-là. Enfin, disons, pour vous montrer peut-être ce qui est intéressant, en tout cas pour moi, dans la question de la science-fiction et du rapport aux femmes, enfin que les femmes écrivent. Là, j'ai choisi de vous parler de trois romans, mais j'en ai deux sur moi, que vous connaissez peut-être. C'est des super classiques. Je dis autant partir avec des classiques. Ça s'appelle Chronique du Pays des Mers, d'Elisabeth von Arbois. Et puis La main gauche de la nuit, de Ursula Le Guin. Mais d'abord, j'ai envie de citer alors justement von Arbourg, donc celle qui a écrit Chronique au pays des mers, qui dans un article d'une revue qui s'appelle Philosophique parle de la science-fiction et du rapport qu'elle entretient aux femmes. Alors je voulais commencer par une citation que je commenterai, deux citations que je commenterai avant de passer au roman, si ça vous va. Alors je cite Elisabeth. D'abord, que la pensée féministe est de nature fondamentalement utopiste. Une fois conscience prise et compte tenu des pépins de la réalité, nous sommes obligés d'imaginer l'autrement, autre part qu'ici. Et le premier autre part, c'est le nulle part de l'utopie, donc elle reprend l'étymologie grecque qui est utopia, qui est aussi une bonne part, comme ça tombe bien. Bonne part, utopia, c'est le... Vous savez que Thomas More a écrit l'utopie en 1516, et il part dans, ça c'est un paronyme ironique, puisque utopie veut dire à la fois le monde qui n'existe pas et à la fois le meilleur des mondes. Utopia, monde qui n'existe pas. Utopia, le meilleur des mondes possible. Je reviens à ce que disait Elisabeth. Ensuite, que l'utopie est l'une des grands-mères de la science-fiction. Toutes deux portent sur le présent, ou le réel, synonymie abusive selon moi. Donc toutes deux portent sur le présent le même regard en biais, qui constitue la même expérience mentale, la même critique des préjugés, et qui conduit à la même construction de modèles de société, parallèles ou perpendiculaires, mais différentes. Et donc, et enfin, que la science-fiction constitue un véhicule d'une extrême richesse potentielle pour la pensée féministe, laquelle, malheureusement, d'après ce que j'ai entendu ici jusqu'à présent, ne semble pas tellement la connaître, et c'est bien dommage. L'article est de 1994, donc pas si vieux que ça. Et ce qui m'a intéressé, c'est de partir de l'idée, et qui est peut-être le point de départ de ce que je voulais vous exposer aujourd'hui, puisque j'avais intitulé ma contribution « Créer des mondes », en fait, « Inventer des mondes », c'est que la science-fiction, en tant que littérature qui, ou d'esthétique, parce que ça peut être aussi le cinéma, mais là je vais me centrer sur la littérature, littérature qui se projette dans un monde alternatif, qui soit futuriste, passé, mais en général complètement alternatif, c'est-à-dire non situé par rapport à notre propre réalité, permet de pouvoir inventer des modèles, ce que ne permettrait pas, ou en tout cas moins, les imaginaires réalistes, par exemple, qui sont toujours un peu liés, partie prenante avec le présent. Hein, il faut qu'il y ait quelque chose qui passe. Dans la science-fiction, on peut à la fois inventer des mondes, autre part, et donc ça permet de pouvoir inventer un nombre de modèles différents, une sorte d'expérimentation. Un écrivain français de science-fiction qui s'appelle Dantec, qui dit « La science-fiction, c'est un laboratoire anthropologique expérimental ». C'est la possibilité de pouvoir trouver un espace dans lequel on peut expérimenter quelque chose. Et donc, évidemment, vu que la pensée féministe utopique pour Elisabeth von Arbourg se doit d'expérimenter des modèles, alors la science-fiction est une bonne manière de le faire, Mais elle a été assez peu préconisée. Il y a très peu de femmes qui écrivent de la science-fiction. Ou plutôt, c'est un genre qui reste majoritairement masculin. Mais pour des raisons qui, à mon avis, sont aussi beaucoup liées à la diffusion du genre dans les années 50, par exemple, aux États-Unis et plus tard en France. Donc voilà, premier point qui me paraissait important à soulever, c'est pourquoi on se parle de science-fiction et de féminisme, parce que c'est un bon espace d'expérimentation. Et ça permet de pouvoir s'affranchir des obligations qui sont liées au récit réaliste. Deuxième citation. La science-fiction me permet de faire jouer divers personnages dans divers modèles de société, afin d'éclairer et critiquer, et non fuir et ignorer, les situations actuelles. Mais elle va plus loin en me permettant d'essayer d'imaginer d'autres modèles, et pour cela d'autres façons de poser les questions qui sont, ou devraient selon moi être, à la base de toute pensée féministe. Alors, les questions sont les suivantes. Qu'est-ce qu'être femme, par exemple? Ou, si l'on s'exprime en termes science-fictifs, qu'est-ce qu'être la moitié femelle de l'espèce dimorphique qui habite la planète Terre? Une optique un peu différente. Qu'est-ce corrélativement qu'être homme? Et la question fondamentale de la science-fiction, qu'est-ce qu'un être humain? La science-fiction est une littérature qui dispose de tous les outils de la connaissance scientifique pour essayer de répondre à ces questions. Tout comme la pensée féministe, pour y répondre aussi, se voit obligée de mettre en question et à contribution tout le champ de la connaissance. Aussi bien la philosophie que la philologie, la biologie que la sociologie. Une convergence de plus. Un deuxième point qui m'intéresse ici, c'est l'idée que dans la science-fiction, à la fois on permet la possibilité de créer des mondes inventés, mais on peut y faire intervenir différents savoirs ou différentes traditions qui permettent de pouvoir en fait poser ces questions fondamentales, qui sont la question du récit, puisque vous le savez tous, un récit, en tout cas un roman, pose avant tout la question de l'humain. Ce qui est étonnant d'ailleurs dans l'histoire de la science-fiction, puisqu'on a souvent imaginé la science-fiction comme une pure créatrice de monde, c'est-à-dire d'univers, on a toujours oublié, en tout cas dans la critique pendant longtemps, le fait que c'était avant tout des êtres qui agissaient dans ces univers-là, hein, le côté narratif finalement. Comme si inventer un monde était plus stimulant que voir ce qui se passe au niveau des humains dans ce monde-là. Donc ces deux aspects-là, utiliser la science pour pouvoir, en fait, interroger la question de qu'est-ce que c'est qu'un être humain et corrélativement qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, c'est un peu ce que j'ai vu dans les deux livres dont je vais vous parler maintenant. Donc, Elisabeth von Harburg dit qu'elle met en place des personnages dans un monde inventé pour expérimenter comment ces personnages se rapportent à ce monde et puis quel rapport peut exister entre les personnages eux-mêmes. En sachant qu'on va utiliser des nouveaux modèles pour poser ces questions-là. Alors, je vais commencer par par Chronique du Pédémère, qui est, à mon avis, un des meilleurs romans écrits par une femme sur la question du féminisme des 20 ou 30 dernières années. Bon, déjà, c'est long, Chronique du Pédémère, puisque c'est 600 pages. Mais assez passionnant. Alors, je vous raconte un peu l'histoire en quelques mots. Il y a eu notre monde. Et puis, notre monde, il a été soumis à une catastrophe qui s'appelle le Grand Déclin, qu'on suppose être une catastrophe écologique, voire même peut-être technologique, style nucléaire et autres. Puis, suite à ça, l'humanité s'est réorganisée autour de ce qu'ils appellent des harems. Alors les harems, c'est assez facile à comprendre, il reste peu d'hommes, et puis ces hommes constituent des sociétés, des micro-sociétés, dans lesquelles les femmes sont les esclaves. Puis ces esclaves femmes se rebellent, on retrouve la dialectique maître-esclave de Marx, mais se rebellent, et puis elles reprennent le dessus sur les hommes, puis elles deviennent la même chose que les harems, mais à l'inverse, ça s'appelle les russes. Donc c'est les femmes qui dominent et les hommes qui sont des esclaves. Mais il s'avère que le Grand Déclin a eu un petit problème, c'est que les hommes se reproduisent moins bien. Ou plutôt sont moins fertiles, ce qui est assez étonnant, puisque dans les années, quand le roman a été écrit, donc 1992, la question de la fertilité des hommes n'était pas une question encore au centre de la démarche scientifique. Aujourd'hui, on sait que depuis les années 50, il y a une perte de fertilité. Mais bon, il y a cette idée-là, voilà, les hommes se reproduisent moins bien, donc... En fait, ils deviennent des esclaves purs et durs. Voilà, vous avez des sociétés de femmes, puis les hommes passent, voilà, de, on va dire, de de village en village pour se reproduire. Alors on garde le cheptel masculin pour être reproduit. Et Chronique du Pays des Mères parle d'une femme qui s'appelle Lisbeth. Et cette femme-là, qu'on voit grandir depuis enfant jusqu'à adulte, s'interroge sur ce monde-là. Elle s'interroge sur le Pays des Mères, ce qu'on appelle le Pays des Mères, sur ce monde organisé autour des femmes, où les hommes sont des reproducteurs qui passent de village en village. On va dire, bon, c'est bon, c'est raconté en 5 minutes, pourquoi écrire 600 pages? Déjà, ça raconte 600 pages parce que, comme souvent dans les romans de science-fiction, on prend le temps de poser l'univers. Quand on lit un roman de science-fiction, c'est peut-être différent pour les nouvelles, où on travaille plus sur une esthétique comme ça, sur une impression esthétique assez rapide, mais dans un roman, pour pouvoir y rentrer, il faut le décrire un peu, ce roman-là. Hein, il faut écrire cet univers. Alors, on passe beaucoup de temps à nous expliquer. C'est ce qui, parfois, embête les gens qui lisent de la science-fiction. Hein. C'est ce côté où on passe des pages à raconter. Mais bon, quand on pense au chapitre 20 de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui est 100 pages de description de Paris, bon, ça se pose. Hein. Là, on va juste poser le décor, et donc on va poser ce décor de manière assez longue, parce que c'est un décor qui ne peut pas être compris par le lecteur, hein, puisque c'est un décor qui est inexistant. Alors, on nous explique ce qui s'est passé, donc la généalogie du monde. Et puis, ces segments qu'on appelle didactiques permettent au lecteur de s'intégrer dans le monde. Alors, on découvre ce monde et on commence à avoir de l'empathie. Enfin, moi, en tant qu'homme, j'ai un peu d'empathie pour les hommes qui sont de ce pays des mers. Mais j'ai aussi de l'empathie pour Lisbeth, parce qu'elle, qui est une femme en devenir, puisqu'on la suit plutôt dans son enfance jusqu'à son adulte, elle s'interroge aussi sur pourquoi est-ce qu'on a fait ça comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a ces rapports de force-là qui se tissent entre les hommes et les femmes. Elle rencontre des alliés, elle rencontre des ennemis, on a vraiment à faire un récit qu'on pourrait dire initiatique. Les points importants, en tout cas, que j'aimerais développer ici en quelques mots, c'est déjà l'idée typique de SF, enfin, excusez de dire SF, mais... C'est-à-dire l'idée que le monde dans lequel nous vivons peut être compris dans son évolution aussi par la science. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'on passe notre temps à entendre des modèles qui nous disent qu'il va y avoir une crise climatique, il peut y avoir des crises nucléaires, malheureusement. Il y a des problèmes. Enfin, bref, la science, qui est donc une science prédictive, elle essaye de nous dire ce qui nous attend. Et la science-fiction mime ça. Et je ne pense pas, moi, je n'ai jamais été pour le fait de dire que la science-fiction parle du futur. Mais il s'avère qu'elle mime cette idée qu'on pourrait décrire un futur possible par le biais de ce qu'on appelle la conjecture, c'est-à-dire l'extrapolation de savoir. Alors, on a affaire à un monde qui est détruit et qui a essayé de se reconstruire et qui a passé, ça, ce qui est assez bien dans ce roman-là, contrairement à beaucoup de romans qu'on appelle post-apocalyptiques, donc après une destruction, c'est qu'il y a eu plusieurs essais. Vous n'avez pas eu une destruction, puis paf, le nouveau modèle social, génial. Vous avez eu plusieurs essais. Ces essais sont indiqués. Et ces essais correspondent à quatre grands modèles que nous connaissons, donc plutôt un patriarcat, mais disons socialement constitué autour de la démocratie, puis un modèle patriarcat fort, où la démocratie a disparu et c'est l'homme qui domine, puis un matriarcat fort, qui vient d'une rebelle, puis une sorte de matriarcat soft, parce que dans le livre on est quand même dans un matriarcat soft, où finalement on fait un peu avec, il y a peu d'hommes peuvent se reproduire, alors bah, on utilise un peu les hommes pour pouvoir conduire à quelque chose. Et en l'occurrence à la survie de l'humanité. Alors, pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait, en fait? C'est une question que je me suis posée en préparant cette conférence. Qu'est-ce qu'on fait quand on lit un roman? Ben, en général, on s'identifie au personnage. Enfin, on s'immerge dans la narration. Et donc, grâce à eux, on éprouve des émotions et des sentiments. Alors, Chronique du Pays des Mers, c'est un livre qui est, à mon avis, très intellectuel. Parce que Lisbeth, c'est une intellectuelle. C'est quelqu'un qui essaie de comprendre le monde à travers la science, en particulier l'histoire et l'anthropologie. Et donc, elle passe un temps incalculable à réfléchir au monde dans lequel elle est. Ce qui peut donner plus de lourdeur, finalement, que la description du monde qui vient presque nous sauver de ces longs passages de réflexion. Et on s'identifie à une femme qui s'interroge sur le monde dans lequel elle est et au rapport de force. Donc, elle va être critique. Elle va être empathique. Elle va être révoltée. Elle va être curieuse. il y a une partie de ce monde-là qui est un peu interdit, c'est la partie des mutations, parce qu'il y a des mutations génétiques. Et elle, son rêve, c'est d'aller dans cette partie-là. Alors elle va dans cette partie-là pour voir c'est quoi ces gens là-bas. Donc c'est, on va dire, une personne de notre temps. On peut supposer aujourd'hui qu'une adolescente, tout ce qu'on peut espérer, ou un adolescent, mais là on a affaire à une femme, puisse être intéressée à questionner le monde dans lequel elle se trouve. Et ce questionnement-là, c'est Chronique du Pays des Mers. C'est un questionnement systématique sur pourquoi les hommes sont-ils réduits à devenir des esclaves sexuels. Puis c'est pourquoi moi, en tant que femme, je ne peux pas tomber amoureuse d'un homme. Et puis c'est quoi en fait une femme vraiment quand on est entouré de femmes? C'est-à-dire quand on n'a pas l'altérité qui nous permet de nous situer en tant que, disons, sexués. Donc elle passe son temps à faire ça, et ce qui m'intéresse ici, c'est le modèle social. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est intéressant dans la science-fiction? C'est la proposition d'un modèle social, ou plutôt les questions qu'elle pose à notre propre modèle social. Alors voilà le lien qu'on va faire. On est dans un modèle social qui est plutôt dit démocratique, et dans lequel on a plutôt une structure patriarcale, en tout cas traditionnelle. Après, il s'avère qu'on peut être plus ou moins pour, plus ou moins contre, mais c'est quand même un petit peu ce qu'il y a. Et la montée du féminisme, parce que Von Harburg ne se dit pas faire de la science-fiction féministe, elle dit qu'elle essaye de répondre aux questions posées par le féminisme en utilisant la science-fiction pour ce faire. C'est l'idée de l'interaction. Lisbeth passe son temps à créer des interactions avec des hommes et des femmes, autant positives que négatives, et elle se situe, alors c'est peut-être pas très original, mais elle se situe sur le fait que la structure sociale est quelque chose qui fondamentalement empêche l'interaction libre. Donc on a ici la critique d'un patriarcat dur, où la femme est reléguée à être une reproductrice, mais on est aussi dans une critique très forte du féminisme hard, où l'homme ne serait qu'un reproducteur, pour trouver quelque chose d'intermédiaire en disant, finalement, qu'est-ce qu'on laisse comme place à l'interaction humaine. Et c'est un livre que j'ai adoré quand je l'avais lu, parce que justement, il a une force immense qui est le fait de redonner un peu d'espoir aux interactions hommes-femmes, qui ne soient plus canalisées systématiquement par des rôles, on pourrait dire, genrés aujourd'hui. Lisbeth tombe amoureuse d'un mâle qui, par ailleurs, est amoureux d'elle, et puis, mais qui est ultra timide, alors il n'ose pas tellement lui en parler. Bon, après. Elle ne sait pas comment s'y prendre, alors c'est un peu terrible et tout. Et rien ne se passe. Bon, lui, il se suicide. Et il se suicide parce qu'il se rend bien compte que cette relation ne peut pas exister. Alors c'est ça qui est intéressant, parce que c'est un peu romantique. Bon, il se suicide, il ne peut pas l'aimer. Mais finalement, ce qu'on comprend bien dans le livre, c'est que c'est pas pour ça qu'il se suicide. Il se suicide parce que la structure sociale dans laquelle il se trouve l'empêche de vivre cette relation-là. Et le génie pour moi de Von Harburg, c'est d'insister non pas sur les motifs romantiques traditionnels, amour impossible ou amour possible, mais sur le fait de dire que dans une société où la possibilité de se reproduire est quelque chose de très particulier, vous empêche de pouvoir être amoureux, en fait. Et que si vous êtes amoureux, alors inévitablement, vous êtes voué à disparaître. Alors, je ne vais pas vous dire dans trop, parce que j'espère que vous allez lire ça. Et vous devez sûrement avoir ça dans votre bibliothèque. En tout cas, il me semble l'avoir vu sur le listing. Mais c'est l'idée, non? Ouais, parce que ça, vous ne pouvez pas passer à côté, c'est pas possible. Sinon, je vous le donne, enfin, pas de problème.
Comme c'est un livre à relire, on l'achètera.
Oui. Donc, voilà une des premières choses intéressantes sur Chronique du Pays des Mers, c'est l'idée que, en fait, le monde créé, qui est possible par la science-fiction, interagit directement avec les personnages, de telle manière que la question du sentiment de l'homme, de la femme, est directement conditionnée par le monde dans lequel ces personnages-là vivent. Alors évidemment, c'est un des constats classiques de la des études genre, hein. C'est l'idée que être un homme, être une femme, est un pur construit socioculturel, et que finalement, l'identité se joue là-dedans. Mais il y a quand même quelque chose d'assez... Von Harburg est comme une femme... des années 90, elle dit quand même qu'il y a quelque chose qui dépasse le construit. Hein? Il y a quelque chose qui dépasse le construit, qui est la question du rapport de force. C'est que dans les quatre modèles sociaux développés, dans le roman, on a quatre fois des rapports de force. Et ces rapports de force, c'est ça, en tout cas c'est ce que moi j'ai lu là-dedans, c'est ça qui est le plus construit socioculturellement. Pas tellement qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme. C'est des questions qui sont très embêtantes parce qu'on s'y pose toujours en tant qu'homme ou en tant que femme. Donc on est partie prenante de la définition qu'on va trouver. Mais c'est plutôt de dire la seule chose qu'on n'est pas partie prenante, c'est l'interaction homme-femme. Et c'est cette interaction-là qui, elle, dépend du système dans lequel on se trouve. Alors ça paraît abstrait comme ça, mais dans le livre, on éprouve bien cette idée que Lisbeth, elle dit ah, « c'est une femme, c'est bon, j'ai compris ». Puis lui, je ne me rappelle plus son prénom, mais « je suis un homme, j'ai compris aussi ». Et puis on va pouvoir redéfinir ces rôles-là en fonction du temps et en fonction de la société. Mais ce qui n'est pas lié, ou ce qui est vraiment fondamental, c'est le rapport de force qui s'instaure entre les deux. Parce que c'est ça qui d'abord dépend du système. Et plutôt que de savoir dans quelle mesure homme-femme, Von Hamburg nous dit « réfléchissons sur l'interaction qu'on crée entre un homme et une femme ». Puis après, si on veut se poser des questions un peu ontologiques, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, libre à soi. Et ce qui est intéressant, c'est que justement Lisbeth, dans son parcours initiatique, elle commence par se poser ces questions qu'on appellerait, ouais, en tout cas anthropologiques. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Qu'elle n'arrive pas. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle commence à se rendre compte que c'est par les relations entre les hommes et les femmes au cours de l'histoire, puisqu'elle est passionnée d'histoire, que va se déterminer ces rôles-là. Voilà. Et le livre nous permet de pouvoir éprouver différents rôles et différents modèles d'interaction avec cette idée finalement, alors qui est très intellectuelle au fond, qui est que c'est par le savoir qui lui n'est pas genré. Alors il peut être genré en sens dans la constitution du savoir, c'est plutôt traditionnellement les hommes qui ont construit ou ont accès aux sciences, puis ça change depuis les années 50, peut-être un peu avant. Non, les années 50. Mais dire le savoir a l'avantage de jouer sur l'objectivité, en tout cas d'essayer de trouver une forme d'objectivité, et donc, qu'on soit homme ou femme, on peut se réunir. Voilà, c'est un objet de réunion possible. Un autre objet de réunion, c'est le roman. Le roman est un bon moyen de réunion. Vous lisez en couple Chronique du Pays des Mers, bon, peut-être chacun son exemplaire, parce que c'est pas facile. Et l'idée de Von Hamburg, l'idée aussi de la littérature, c'est-à-dire la lecture va forcément amener des questions et des possibilités de pouvoir interagir, de pouvoir se... Et ça, c'est peut-être pour, en tout cas, Von Hamburg, c'est plus important que les questions, disons, fondamentales qui sont des questions politiques. Donc voilà, ça c'est cette idée-là chez Von Hamburg, c'est que l'interaction, enfin... C'est dans la relation humaine qu'on est humain. Voilà. C'est un peu bête de dire ça comme ça, mais c'est de dire on n'est pas d'abord homme ou femme, on est d'abord relation humaine, et que cette relation humaine, elle l'imagine de pouvoir la créer par le savoir. Hein, ils échangent tout le temps, et ils ont une... Enfin, voilà, ça serait beau qu'on soit tous comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de stimulation intellectuelle qui se passe entre les protagonistes, mais dans laquelle se joue la question de l'humanité. Donc le modèle social permis par la science-fiction, c'est de dire, je prends des clichés de la SF, parce que fin du monde, c'est un cliché depuis les années 50. Mutation génétique, c'est un cliché associé à la fin du monde. Perte de fertilité, c'est pas encore un cliché, mais ça commence à se constituer comme tel, c'est cette idée qu'on peut vraiment être moins apte à se reproduire. On travaille sur des espèces de micro-sociétés qui font penser à l'utopie. On est dans des systèmes clos. Vous voyez, le harem, ça c'est quelque chose qui est très bien vu par Von Hamburg, puisque le but de la journée c'était de parler de utopie et de science-fiction. C'est qu'en fait, Von Hamburg dit l'utopie c'est un peu la grand-mère de la science-fiction. Et c'est la grand-mère de la science-fiction dans le sens où c'est le même type de procédé. Hein, on met à distance quelque chose, et puis on réfléchit sur ce qui va arriver. Puis dans cette mise à distance, il y a quelque chose qui se passe, on peut réfléchir. C'est ce qu'on appelle la réflexivité. Pour faire plus simple, c'est un miroir. Vous êtes face à un miroir, il y a un espace entre le miroir et vous, puis cet espace, vous pouvez vous dire, tiens, comment ça se fait qu'aujourd'hui je me trouve beau ou pas beau? Alors que le miroir, c'est le même et que je suis plus ou moins le même quand même. Mais il se passe quelque chose dans cet espace-là qui permet d'interroger l'image. Alors voilà comment ou pourquoi l'utopie et la science-fiction sont en lien de parenté. C'est qu'ils établissent une distance. Et dans le pays des mers, vous avez des micro-sociétés qui sont chaque fois des formes utopiques. Des systèmes clos, en fait. Et systèmes clos n'interagissent pas entre eux. Et à l'intérieur de ces systèmes clos, ça se passe mal. Alors qu'est-ce que fait Lisbeth? Comme elle est historienne, elle passe son temps à passer de système clos en système clos. Et c'est elle qui passe, c'est elle qui travaille au rapprochement, au moins intellectuel, des systèmes clos. Et il y a aussi donc là derrière une assez bonne critique de l'utopie, qui serait d'imaginer un système clos unique, qui serait voué à l'échec, évidemment. en tout cas d'après les auteurs de science-fiction, en général, les systèmes clos sont voués à l'échec parce que ils n'ont pas de dynamisme, hein, ils n'ont pas d'interaction. D'ailleurs, dans l'utopie classique, vous savez qu'on est tout le temps là-dedans. Je me rappelle de ce truc chez Bacon, là, dans La Nouvelle Atlantide, où ils arrivent sur l'île, bon, ils ont failli mourir 8 fois et tout, ils arrivent sur l'île, puis après ils disent, mais comment vous faites pour vous tenir au courant du monde? Alors, on envoie des émissaires, mais alors, personne ne sait qu'ils habitent à La Nouvelle Atlantide. Alors nous, on prend, mais alors, de toute façon, nos émissaires partent à l'étranger, mais de toute façon, ce que créent les humains normaux, c'est nul, quoi. Donc on a bien le temps de rester chez nous tout seul, hein, quand on pense très conservative. Alors ici, dans Chronique du Pays des Mers, Lisbeth est la seule à dire non, il faut passer de l'un à l'autre. Parce que même s'il n'y a pas de nouvelles technologies ou de nouveaux savoirs, il y a de toute façon quelque chose de nouveau. Donc c'est aussi une bonne manière de montrer comment la science-fiction s'inscrit dans une tradition et qu'elle réfléchit à la fois aux problèmes humains, mais aussi aux problèmes qui fait que quand on dit le féminisme est une utopie, on dit en même temps, si le féminisme existe en tant que, enfin, pur, sans interaction, alors nécessairement, il est voué à l'échec. Pour dire la même chose avec le phallocratisme. Voilà. La main gauche de la nuit, ça c'est un roman de pur SF, parce que c'est un roman qui part sur l'idée, donc voilà, La main gauche de la nuit, Ursula Le Guin, qui est un roman de 1900, c'est assez vieux ça, 65. Hein. On n'est évidemment pas dans du féminisme, on est dans une construction d'un univers très particulier qui est une planète qui s'appelle Geten. Et puis, alors, si vous voulez, on est dans un espace télé. Alors, on est dans l'espace. Il y a plein de planètes qui ont été colonisées par les humains, puis plein de planètes qui ne sont pas colonisées par les humains. C'est un grand thème classique de la SF. Et puis, les humains passent de planète en planète pour former une sorte d'empire qui s'appelle l'écumène. L'œcuménisme, quoi. Et donc, chaque fois, on va sur les planètes pour voir comment ça se passe et pour que ces planètes puissent rejoindre l'écumène. Avec cette idée, de nouveau, très utopique, on va former un système clos où toutes les parties de l'univers deviennent le même système qui appartient au même système politique qu'est l'écumène. Puis, donc, c'est un cycle, il y a plusieurs... chaque fois, dans chaque roman de Ursula, on arrive à une nouvelle planète. Ça. Et dans La main gauche de la nuit, on arrive sur Geten, qui est une planète non sexuée. C'est-à-dire qu'on est des gens, enfin, qui ne s'appellent pas des humains, c'est des gens. Puis, ces gens n'ont pas de sexe. Mais il s'avère qu'ils se sexuent uniquement au moment de la procréation. Alors ça, c'est ce qui est permis par la science-fiction. Imaginez de faire ça dans un roman réaliste. Déjà, vous ne pourriez pas être publié en roman réaliste. Et puis, donc vous allez finir dans une sombre collection qui ne va être lue que par peu de gens. Et pourtant, l'idée, elle est assez chouette parce qu'il y a cette idée... donc voilà, on est sur Geten, on a un émissaire de l'écumène qui arrive puis qui voit un peu ce qui se passe pour pouvoir savoir dans quelle mesure cette planète peut être intégrée ou non à l'écumène. Puis il découvre, ça c'est le côté très Jules Verne, hein, je vais quelque part et puis je découvre ce qui se passe. Dans l'utopie c'est la même chose, c'est toujours un voyageur qui arrive, qui dit, ah tiens c'est sympa, pas sympa, puis il repart. C'est exactement ce qu'on a ici, on arrive dans une planète, on regarde puis on repart. Donc on a cette idée-là d'avoir des êtres qui en fait ne sont pas sexués. Et donc, il n'y a aucun rapport de force au quotidien. Puis, de temps en temps, quand il faut se reproduire, une sorte de cycle interne d'horloge biologique, comme ça. Alors, paf, ils se sexuent, mais ils peuvent se sexuer autant un jour, une fois en homme, une fois en femme. Enfin, ça ne change rien, ça peut se faire n'importe quand. Donc, on a un genre assez, qu'on pourrait dire, neutre. Et ce qui fait que les habitants de Geten ne comprennent pas du tout qu'on puisse, parce qu'il y a toujours cette idée de revenir après, ne comprennent pas qu'on puisse nous se poser des questions là-dessus. Ils disent, je ne comprends pas le problème avec vous humains, vos hommes et vos femmes, le désir sexuel, tout ça, je ne comprends pas. Et dans ce monde-là, on retrouve la structure utopique, c'est-à-dire la structure de « je découvre un monde et puis je vois comment il fonctionne, et puis j'aimerais bien en retirer quelque chose ». Or, il s'avère qu'on est dans quelque chose qui est complètement autre. Et nous, en tant que lecteurs, on est assez embêtés. Parce que ça veut dire quoi, ne pas être un homme ou ne pas être une femme? Et ça veut dire quoi, se sexuer de manière fonctionnalisée, hein? C'est-à-dire, je ne me sexue pas en tant que construction d'identité, ce qui serait le cas de l'humanité. L'humanité est sexuée. Et cette sexuation construit l'identité humaine. Hein, je suis avant tout homme ou avant tout femme. Bon, sauf Simone de Beauvoir qui pense qu'on le devient. Mais à part ça, dans l'expérience personnelle... on peut dire qu'on est dans quelque chose de l'ordre de « c'est important dans le développement d'un individu de se dire « ah, je suis un homme, je suis une femme ». Là, on est dans une planète où cette question-là, enfin, où cette planète imaginaire nous confronte à cette question-là. Ça voudrait dire quoi ? D'avoir une sexualité qui est purement fonctionnelle, qui ne sert qu'à quelque chose, qui n'est pas liée à la construction d'une identité particulière. Et ça, ça déstabilise assez bien le lecteur, puisque on a envie, enfin en tout cas moi dans mon expérience de lecture, je me disais, bon moi, ce type-là, qui a un nom imprononçable, alors je ne sais pas, il y a un nom, je ne sais pas, bon ben, Andarata, voilà, Andarata, on ne sait pas trop, ou bien Kargav, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas trop si c'est masculin, féminin, etc. On a envie de les sexuer. Et puis ça, c'est un truc vraiment bien au niveau de l'effet esthétique. C'est qu'on n'arrive pas à accepter qu'on puisse avoir en face de nous, entre guillemets, un être qui serait neutre. Alors on dit, bon, il y a plutôt une réaction qui me ferait penser femme-homme. Et donc qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de travailler, enfin, de lire un livre qui dit il n'y a pas de sexuation. Et nous, on mobilise des clichés pour sexuer. Parce que ça nous dérange qu'on puisse ne pas sexuer. Et donc là, vous voyez bien le côté miroir. Hein, le miroir, c'est-à-dire, tiens, c'est marrant, dès que le miroir me renvoie une image qui m'embête un peu, c'est-à-dire, tiens, aujourd'hui, j'arrive pas à voir cette personne-là comme étant autre chose qu'un genre neutre, alors je vais mobiliser mes clichés à moi pour pouvoir dire, ah, dans cette réaction, on est plutôt dans la réaction féminine ou bien réaction masculine. Et ça, je trouve que Ursula Le Guin le fait très bien, c'est-à-dire cette obligation, en fait, de nous situer en tant que lecteur par rapport à ces questions-là. En gros, la question, c'est pourquoi vous accepteriez pas un genre neutre ? Puis vous vous rendez compte, quand vous lisez le livre, que c'est ultra compliqué à accepter. Parce que justement, la question du genre est une question d'individualisation. C'est-à-dire, on s'éprouve en tant que sujet à travers notre genre. Juste parenthèse, dans Chronique du Pays des Mers, c'est intéressant parce que la langue elle-même, alors je voulais pas faire trop de style, mais les mots changent de... Il y a beaucoup de mots masculins qui deviennent féminins. Alors ça, au début, c'est un peu étrange, parce qu'on lit des phrases, puis on se dit « la cheval », par exemple. Puis on résiste un peu, ça nous embête un peu. Alors c'est un peu le même rapport que le miroir avant, hein, mais au niveau de la langue pure, c'est qu'on ne comprend pas très bien. On se dit « c'est agaçant, ces mots féminins, alors qu'ils sont masculins ». Il n'y a pas l'inverse, par contre. Et les pluriels sont aussi des pluriels féminisés, donc tout le temps « A-L-E-S », par exemple, hein, « les chevals ». Mais c'est aussi le même principe quand même du miroir, c'est-à-dire, comme on résiste à ce qu'on lit, ça nous embête, alors on ne peut que dire, non mais pourquoi elle écrit ça comme ça, elle ne veut pas dire comme tout le monde, enfin. Et donc on mobilise du cliché, en l'occurrence ici linguistique, bon un peu compréhensible quand même, et on est obligé de court-circuiter notre cliché, donc on rentre dans la tête de Lisbeth, et ça c'est assez bien fait. Hein. On est obligé de se dire, voilà, en fait je suis une femme, prenant une femme ça va, mais un homme c'est un peu plus compliqué. Par contre, donc voilà un point très positif ou très intéressant dans La main gauche de la nuit, c'est cette idée, en fait, voilà. Première thèse de Ursula Le Guin, c'est si on n'a plus de genre, alors le lecteur qui, façon, est genré ou sexué, il va y remettre du genre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait vouloir des fois que le genre soit moins omniprésent. Mais quand on lit ça, on se dit... Moi, je me suis dit, j'ai envie de remettre du genre. Comme si j'arrivais pas à accepter qu'il puisse ne pas y avoir de genre. Et quand on voit certains discours extrêmes féministes américains où on a l'impression qu'il faudrait qu'il n'y ait plus de genre, c'est-à-dire l'humain comme catégorie, puis après, bon, il y a vaguement un machin qui se passe, mais que c'est d'abord l'humain, on se rend compte que ça serait très embêtant, parce de fait, on y remet du genre. Voilà. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose sur laquelle écrit Ursula Le Guin, c'est l'idée que ce système non polarisé, puisque vous avez un genre neutre, tend vers un bon communisme totalitaire, comme ça. Ce qui est peu étonnant. Alors, on va faire un peu d'histoire. L'utopie a toujours été un genre littéraire, cette fois-ci, qui se constituait autour de la fin de la propriété privée. Alors, c'est vrai. Depuis Thomas More jusqu'au 18e siècle, enfin jusqu'à la naissance de la science-fiction en tant que genre, donc au 19e, 20e, l'utopie était en général des systèmes, à une ou deux exceptions près, on pourrait dire communautaristes. Je ne veux pas dire communistes parce que ce n'est pas des systèmes communistes, mais communautaristes. Voilà, tout le monde est au même, la même enseigne. C'est l'idée de dire, voilà, il y a cette scène mémorable que vous avez peut-être lue dans La Cité du Soleil de Campanella, où ils doivent avoir un rapport sexuel. Et c'est très embêtant, parce que quand vous êtes dans une société communautariste, vous ne pouvez pas vraiment imaginer que vous nouiez un rapport particulier à l'autre. Parce que non, si vous commencez à tomber amoureux, vous êtes grillé au niveau du communautarisme. Alors Campanella dit ça au 17e, il dit, bon, alors, déjà, les couples ne se forment pas par affinité, mais par les astres. Alors vous avez des astrologues qui vous disent, bon, bah vous, hop, avec lui. Et puis, vous avec lui, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent vous prendre, qui vous amènent dans une pièce, qui vous déshabillent, qui vous mettent dans une autre pièce où vous avez quatre personnes, qui disent, voilà, allez-y. Voilà, alors vous reproduisez, puis après vous vous séparez, et puis l'enfant appartient à la communauté. Évidemment, c'est ultra extrême, hein, surtout pour nous, post-romantiques. Et on se dit, c'est bizarre, mais c'est tout à fait logique et cohérent. Si vous ne voulez pas tomber amoureux, quatre personnes qui vous regardent et puis on ne vous a pas choisi qui, vous limitez les dégâts. C'est possible, mais c'est peu plausible. Voilà. Et donc, on est obligé de couper l'émotion. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le système de Ursula Le Guin? C'est qu'on remet ce communautarisme utopique. Puis, alors, vous voulez que les gens soient les mêmes? Très bien, alors on va faire un genre. Voilà, un genre, les gens sont les mêmes. Donc, on n'aura pas des revendications femmes ou des revendications hommes. On aura juste un moment assez bref durant la sexuation où l'homme et la femme, enfin, où la reproduction se sépare. Puis après, dès que c'est fini, c'est bon. Mais chacun a en soi les organes, enfin, les possibles organes mâles et les possibles organes femelles. Et donc, il y a cette critique, ou plutôt cet effet miroir qui est de dire, et c'est pour ça que c'est intéressant avec les chroniques du Pays du Maire, c'est, est-ce que là, en tout cas aujourd'hui, en 2011, voilà ce que moi je me suis dit, qui ne suis pas un expert en féminisme, mais c'est de dire, finalement, est-ce que c'est intéressant, à travers le texte de Le Guin, est-ce que c'est intéressant de se demander comment faire pour que... on soit plus homme, on soit plus femme, on soit moins homme, on soit plus femme, ou enfin, tous les cas de figure. C'est plutôt la question de dire vers quoi on tend. C'est un peu ça que dit Ursula Le Guin. Vers quoi on tend si on commence à se poser la question du genre. Alors, dès qu'on fait un genre unique, voilà, ça tend vers le totalitarisme. Alors, on voit bien pourquoi d'ailleurs, puisqu'évidemment vous ne pouvez pas dévier, vous ne pouvez pas vous sexuer, vous ne pouvez pas rester sexué. Donc vous retrouvez les grands thèmes de l'utopie classique qui font que si vous faites ça, on vous tue. Parce que bon. Vous mettez en péril la communauté. Parce qu'il y a un des individus, c'est même Raymond, qui cherche en fait à exister un peu plus de manière subjective. Il essaie d'être un peu plus, enfin un peu moins genré, puis alors ça se passe très très mal pour lui. Et donc là, on retrouve aussi ce que disait von Harburg sur la question de le féminisme est une utopie. Hein. Mais le problème de la leçon de l'utopie, c'est que la leçon de l'utopie, c'est que c'est pas très bien l'utopie. Vous savez que la dernière phrase de l'utopie de Thomas More, c'est cette cité utopique. Je la souhaite plus que je ne l'espère. Hein, c'est un rêve plus qu'un projet. Ce qui était con, changé au 18e, puisqu'au 18e, avec les Lumières, on a commencé à imaginer qu'on pouvait réaliser l'utopie. D'ailleurs, il y en a même qui ont été réalisés. Assez peu, finalement. Mais la leçon de l'utopie classique, c'est jamais, il ne faut pas réaliser l'utopie. C'est dramatique de vouloir faire ça. Et donc, quand von Harburg dit, et on voit bien ça dans La main gauche de la nuit après avec Ursula Le Guin, quand elle dit la pensée féministe est par essence utopiste. On peut critiquer ça, mais je ne suis pas assez expert pour le critiquer. Mais quand elle dit ça, ce qui est intéressant, c'est qu'elle insiste sur le fait de dire dans quelle mesure c'est totalitaire. Hein? De la même que on sait que la pensée phallocratique était totalitaire. Bon, ça c'est bon, c'est un acquis de l'histoire. Mais la pensée utopiste, féministe, on peut se poser la question. Et les livres que je vous présente aujourd'hui se posent cette question-là. Dans quelle mesure c'est pas totalitaire? Dans quelle mesure est-ce que, de nouveau, en mettant en avant d'abord le genre, ou chez Le Guin, l'absence de genre, on tombe pas dans quelque chose qui est totalitaire? Et c'est pour ça que dans Chronique du Pays des Mères, la seule chose qui sauve le totalitarisme, c'est les individus qui, entre eux, nouent des relations particulières dans lesquelles ils peuvent se constituer comme individu. Alors, pour résumer, c'est ça, et après je passerai sur un troisième roman que j'ai pas avec moi. Ces deux romans... Alors, c'est jusqu'à l'ennemi. Hein. Écart. Ah, c'est bon. J'ai quasi fini. Pour résumer, on va dire, dans les deux modèles, un modèle qui dit, je vous mets un miroir, Et dans ce miroir, je vous dis que la question de l'homme et de la femme est secondaire par rapport à la question de l'humanité. Une question, puisque c'est dans l'interaction qu'on se constitue en tant que sujet, libre, pensant, etc. Et puis la deuxième, Ursula Le Guin, c'est face à un modèle neutre, vous n'allez pas pouvoir faire autre chose que de remettre du genre. Et donc, vous ne pouvez pas imaginer faire autre chose que de compiler, pas de bol, avec cette sexuation. Alors, je ne vais pas vous parler du troisième roman qui était L'autre moitié de l'homme, peut-être qu'il y en a qui connaissent, qui a été écrit par Yona Ross, qui est aussi assez SF. Alors, comme je dois conclure en 8 minutes,
ou lancer la discussion,
mais je vais conclure pour lancer la discussion. Je vais vous dire la chose suivante. Quand on travaille dans la science-fiction, on lit plein de choses, de tout ordre. Et on lit beaucoup de conquêtes spatiales, par exemple. C'est très agaçant. À l'Avatar. Et je me rappelle quand j'ai lu ces romans il y a quelques années, sans être particulièrement préoccupé par la question du féminisme, plutôt pour des raisons d'autres intérêts intellectuels que celle-là. Je trouvais qu'il y avait un souffle assez puissant. Parce que, pour moi, la science-fiction, c'est d'abord une littérature de l'humanité. C'est d'abord une littérature qui parle de qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Dans un monde technologique et scientifique. Et donc, j'avais trouvé intéressant cette idée, qui était nouvelle pour moi, qui est de dire, en tant qu'individu, je suis très attaché à mon genre d'appartenance. Parce que j'ai grandi avec, je me constitue avec, je m'habille avec, je parle avec, je pense avec. Donc, ce qui m'est le plus familier, en fait, c'est mon genre sexuel. Et donc, j'ai beau dire, oui, l'humanité, tout ça, c'est très bien, mais il s'avère que la première chose à laquelle je pense, c'est mon genre. Et la science-fiction a cette espèce de force, à mon avis, de nous obliger à non pas à sortir de nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas, mais à nous mettre face à une image de nous-mêmes, qui est de dire, alors moi, c'est ça que j'ai adoré dans Chronique du Pays des Mers, on peut bien être tolérant à tout ce qu'on veut, mais est-ce que vraiment, je fais attention à l'interaction? Alors, on espère que oui, mais est-ce que vraiment je le fais? Ce que j'ai adoré dans La main gauche de la nuit, c'est est-ce que vraiment, je ne fais pas attention au sexe de mon interlocuteur? Et comme on distancie, la science-fiction, on l'appelle souvent une littérature distanciée, ou un miroir distancié, en nous mettant à distance, elle nous oblige, nous, lecteurs ou spectateurs pour un film, à combler cet espace-là. Et de dire, dans cet espace-là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a un ensemble de clichés, un ensemble de problèmes, un ensemble d'idées, de valeurs, et de ça, qui sont les miennes, hein, et les miens. Et si je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, à lire ces romans, c'est peut-être pour éprouver cette distance-là. Parce que moi, j'ai été formé littéraire classique, vous voyez, enfin, Baudelaire, tout ça, c'est bien. Mais j'ai jamais retrouvé, en tout cas rencontré, j'ai trouvé plein d'écrivains qui écrivaient mieux. On ne peut pas faire mieux que Flaubert, désolé. Par contre, j'ai jamais trouvé ailleurs cette espèce de capacité à mettre de la distance. Et ça, je pense que c'est ce qui fait que le laboratoire expérimental qu'est la science-fiction nous oblige à mettre cette distance-là pour interroger ces questions-là, mais avant tout pour nous interroger nous, en fait. Et ça me rappelle le théâtre de Brecht, avec Brecht est le premier auteur de théâtre, enfin, premier dramaturge, j'ai parlé de la distanciation. Il disait, dans mon théâtre, il faut que le spectateur, il soit à la fois très loin de ce qui se passe et très proche, parce que c'est dans cette distance-là que je vais m'éprouver en tant que spectateur avec plein de questions et plein de problèmes. Ben, je pense que la science-fiction, sans forcément le faire exprès, puisqu'elle existe avant Brecht, elle prend acte de ça. Et elle prend acte de cette distanciation-là. Elle nous oblige à nous questionner d'abord en tant qu'individu appartenant à une espèce. Et j'espère, et je suis très content de voir la collection que vous avez, parce que dans tous les livres que j'ai lus, alors je les ai non pas tous lus dans ce que vous avez acquis, mais vous avez plein de romans qui permettent ça. Et je pense que la question du féminisme dans la science-fiction est peut-être le meilleur endroit où elle peut se poser. Parce que justement, parler du féminisme ou du phallocratisme sans prendre de la distance, c'est à mon avis complètement aberrant. Enfin, voilà.
Ben, merci. Merci beaucoup. Je voulais juste un... petit mot par rapport à la collection qui nous a été donnée effectivement par une passionnée de la science-fiction, mais au fait, elle s'est gardée quelques perles.
Ouais.
Alors au fait, on ne sait pas si justement
les Leguins,
que les Leguins par exemple, c'est-à-dire qu'effectivement qu'il y a peut-être effectivement des grosses lacunes là-dedans, puisqu'elle s'est gardée ses favoris quelque part, donc ça il faudrait voir comment
on pourra
l'occasion. Alors voilà, alors je ne sais pas si vous avez des questions à poser à M. Atala. Si... Oui.
Oui, vous avez, on sort peut-être de la littérature, mais vous avez cité Avatar comme exemple de conquête spatiale, on va dire entre guillemets, conquête masculine, virile, etc. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que le film est parsemé de personnages féminins forts, que la planète est une société matriarcale ? Et qu'au finish, la conquête spatiale, le space opéra tel qu'il est montré dans Avatar, est en fait une énorme bêtise, et que c'est grâce aux femmes que tout le film est porté. Enfin, moi, j'ai ce sentiment-là, c'est pour ça que je suis un petit peu surpris.
Je comprends. Alors, en deux mots, mais je comprends bien ce que vous dites, mais prenons l'exemple de Nérini. Oui, Nérini, c'est la femme qui... Voilà. Alors, Nérini, elle apprend tout à Jake Sully. Lui, c'est un peu, voilà, il est là. J'espère que vous avez tous vu Avatar, parce qu'il faut voir Avatar quand même. Même si c'est pas très bien, il faut voir. Donc elle lui apprend tout. Elle lui apprend à parler. Elle lui apprend à monter à cheval, à monter sur son dragon. Enfin, je sais plus comment s'appelle ces êtres. Elle lui apprend à dormir, enfin, à s'enrouler dans une feuille. Elle lui apprend à marcher, à chasser, à faire la prière, enfin, tout. Sa mère, quoi. Et bon, il tombe amoureux d'elle. Petit problème idéologique, mais il tombe amoureux d'elle. Puis elle le frappe, je sais pas si vous vous rappelez, elle le frappe, elle dit, mais t'es vraiment un idiot, il faut que t'apprennes plus vite. Bon. Mais à la fin du film, c'est-à-dire quand il monte sur le gros truc là qui vole, elle est derrière lui, et puis alors, le message pour moi, il est suivant. Jeunes gens américains, garçons, supportez les humiliations, un jour vous aurez votre revanche. Parce qu'à la fin, le chef du clan, c'est plus la femme, la mère de Nérini est morte. Ah, elle s'est fait malheureusement tuer par les humains. Bon, elle est morte. Non, c'est pas vrai. C'est le père qui meurt. La mère reste, mais le chef du clan, ça devient Jake Sully. C'est-à-dire que c'est lui qui est devenu le chef du clan. C'est lui qui est devenu... il s'est transfiguré quand il arrive sur le Turuk Mato, là, je sais plus comment il s'appelle. Et donc, il y a cette idée assez bizarre, pour moi en tout cas, qui est vraiment ça. Hein, c'est supporter tout, garçon. C'est pas grave. De toute façon, un jour, c'est vous qui allez être le chef du clan. Donc, je trouve pas ça très féministe. Quant à la structure matriarcale, on est dans une structure archaïque, puisqu'on voit bien que ces pauvres navis, bon, bah, ils ont pas d'armes, puis ils sont gentils, puis ils se connectent à la nature, ils font des danses tribales, voilà. Et on sait que les sociétés archaïques sont plutôt matriarcales. Donc, moi, j'ai plutôt le sentiment d'avoir un côté qui est de dire... Oui, c'est matriarcal pour parler de la nature, et puis comme quoi c'est bien. Mais dès qu'il y a un humain qui arrive, qui se transforme en avatar, enfin en avis, après le truc c'est, on va commencer à vous descendre. Ça fait des millions d'années que vous êtes en matriarcat, maintenant c'est fini tout ça. J'arrive, je prends la fille qui était destinée à un autre, pareil. Elle tombe amoureuse de moi, on sait pas trop pourquoi elle tombe amoureuse de lui, puisqu'il dit rien. Mais elle tombe amoureuse de lui. Lui, c'est bon, voilà. Et puis à la fin, c'est le chef du clan. Et quand les humains repartent sur Terre, il est là avec son arme... ce qui rend les navires beaucoup moins sympathiques d'un coup. Mais il est là avec son arme, et puis on voit bien que c'est le chef. Et suite à ça, il se transforme en navire, et puis il devient vraiment le chef. Et donc je comprends la position, mais pour moi, elle est assez perverse dans le film. C'est qu'elle donne le sentiment qu'on donne beaucoup d'importance aux femmes. Pendant tout le film, Nérini, c'est la mère, en fait. Mais enfin, la mère, c'est la figure, hein, enfin, l'instance maternelle. Mais à la fin, on voit bien, enfin, lui, ça devient le chef de famille. Avatar 2, il y aura des petits navires. Et lui, il va rester le chef de famille. Donc, il y a cette idée qu'on ne peut pas conserver une société matriarcale. Et la femme, la dernière scène du film, quand il se fait changer en avis, la femme, c'est la magicienne. Hein, c'est celle qui fait un peu des passes magiques au-dessus de lui pour qu'il puisse s'incarner dans son corps d'avatar.
Moi, j'avais une question. Comme on a dit que quand nous deux, on s'est lancé là-dedans, on n'y connaît rien du tout en science-fiction. Et moi, en fait, en lisant certains livres, en amorçant, souvent, je les ai mis de côté parce qu'il y a cette description de monde. Ce qui m'a souvent dérangée, c'est qu'on entre tout de suite dans un monde sexué. C'est-à-dire, souvent, il y a des modèles, voilà comment il est l'homme, voilà comme il est la femme, ce qu'on n'a pas dans d'autres types de romans. Et du coup, c'est une catégorisation qui me dérangeait. Et par rapport au jeu, en général, dans les romans, comme par exemple aussi des voyages d'aventure, d'explorateurs, etc., où c'est pas souvent mis en... Parce que l'homme, quelque part, l'auteur masculin, il est souvent quelque chose comme neutre, comme dans, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment féminin. C'est-à-dire que moi, des fois, je me suis... quand je me lance dans une lecture ou en tant qu'enfant, je me mettais dans la peau de Jules Verne, ou etc. Et quelque part, je ne sais pas si dans l'inconscient, j'effaçais mon identité sexuelle, quelque part, et je me lançais là-dedans, et puis ça m'énervait hautement de tout le temps être ramenée quelque part à mon sexe féminin, quelque part que ce n'est pas pour toi. Et c'est dans ce sens-là que je me dis cette présence. Par contre, je suis assez déconcertée quand, par exemple, je lis des livres de femmes et que tout à coup, au bout de quelques pages, je m'aperçois qu'au fait, qu'elles parlent avec un jeu masculin. Et parce que quelque part, je me dis, tiens, quelque part, je lis un auteur femme, donc quelque part, c'est moi, quelque part, qui peut me représenter. Donc, pour moi, c'est très trouble, cette question-là du... De l'identité.
Bon, c'est une question qui me paraît qui sera intéressante, mais qui est assez complexe, parce que le problème, c'est qu'en fait, dans la science-fiction, et ça, c'est un énorme problème aujourd'hui dans le genre, c'est qu'il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu d'études qui ont été faites sur la science-fiction. Mais d'études, je ne dis pas, il y a eu beaucoup de panoramas. Donc, il y a beaucoup de choses qui vous expliquent l'histoire de la science-fiction. Si on devait dire, voilà, j'aimerais les 10 meilleurs romans de S. Les 50 meilleurs romans de science-fiction. Ou les plus intéressants, on aurait 50 listes complètement différentes, et il y a même des chances que dans ces 50 romans, on n'aurait pas forcément de croisement. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas... Si vous avez lu La main gauche de la nuit ?
Non.
Ça, vous devez lire. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, au niveau purement littéraire, là, vous avez la question que vous posez, je m'intéresserais à savoir ce que vous en pensez. C'est-à-dire que la science-fiction, c'est une littérature qui est... C'est une catégorie éditoriale au début. C'est quelque chose qui n'est pas défini comme le réalisme, etc. C'est des années 20, on invente le mot science-fiction, c'est le nom d'un ce qu'on appelle un pulp. Un pulp, c'est un recueil de nouvelles. Et puis, tout ce qu'on ne sait pas trop classer, on le met dans le pulp. Quoi. Enfin, on le met dans la science-fiction, pardon. Parce que dans la science-fiction, il y a 1 million de choses différentes. Et puis, dans ces 1 million de choses différentes, en plus, c'est très peu hiérarchisé. C'est-à-dire que vous ne savez pas, c'est bien pourquoi. Est-ce que c'est bien parce que l'univers décrit est exotique ? Est-ce que c'est bien parce que l'aventure est intéressante ou stimulante ? Est-ce que c'est bien parce que le niveau réflexif est important ? Vous n'avez pas ça. Vous savez, quand vous allez écrire, vous allez lire Balzac, que vous n'allez pas vous éclater comme si vous lisez Stephen King. Enfin, normalement. Ça vous dit, je vais voir des types sociaux du 19e siècle. Et puis, voilà, alors je peux trouver ça intéressant ou pas intéressant, mais je sais plus ou moins ce que j'attends. Mais quand vous lisez ça, vous ne savez pas ce que vous attendez. Il n'y a personne qui vous dit ça c'est bien ou c'est pas bien. Et puis si vous allez... Alors c'est un des grands problèmes qu'on a pour les gens qui travaillent sur la science-fiction, c'est comment faire propager cette info. Alors au musée on essaye, dans les recherches des chercheurs, il y a des gens, je vois des sites internet, on essaye, mais c'est difficile parce que c'est des milliers et des milliers de romans et de films en plus. Oui, Avatar, moi je trouve génial la question que vous m'avez posée parce que... Parce que c'est un des films les plus pervers que j'ai vu de mon existence.
Oui.
Mais oui. De la science-fiction, c'est un des pires. Parce que justement, ça marche très très bien. Quoi. C'est très séduisant. Donc, je pense que la question du jeu femme-homme est une bonne question. Mais on n'a pas les ressources aujourd'hui pour répondre. Si vous lisez Ursula Le Guin, je pense que ça change ça. Mais c'est un roman. Puis après, vous avez plein d'auteurs femmes ou d'auteurs hommes qui... vont essayer de se mettre à la place d'un homme ou d'une femme. Mais ça, soit vous trouvez de l'étude sociologique américaine, étude genre, et puis bon, vous dites toujours les mêmes trucs, quoi. Mais il n'y a personne qui prend le temps de dire qu'est-ce qui est intéressant là-dedans. Qu'est-ce qui fait qu'en tant que... Voilà, c'est une auteure femme qui parle, qui met en place un narrateur homme. Puis ce narrateur homme, il découvre un monde neutre. Puis comment il le découvre ? Ça, il n'y a pas. D'ailleurs, vous avez Ursula Le Guin, je sais pas, peut-être tu sais, il y a combien de livres qui ont été écrits sur Ursula Le Guin ? Moi, je pense qu'il y en a. États-Unis en France, parce que. Enfin, en France, dans le monde francophone. Et pas d'études de science fiction studies ou social studies, etc. Hein. Vous allez le trouver en France, zéro, je pense. Ce sont des articles. Hein. Mais, donc c'est. Alors que dans la littérature, par exemple, la littérature non SF qu'on peut trouver qui parle de ces questions-là, on peut imaginer d'avoir plus d'appareillage critique qui permet aussi de pouvoir donner une aura au livre. Ce qui fait qu'on lit Balzac aujourd'hui, c'est que vous avez 450 000 livres critiques qui ont été écrits sur Balzac. Et puis donc on commence à pouvoir s'y rapporter de plusieurs manières différentes. Mais là, vous n'avez pas ça. Et je pense que c'est une question qui est beaucoup plus générale que la question du texte lui-même. C'est que vous avez un nombre incroyable d'auteurs femmes ou hommes qui écrivent sur ces questions-là. Mais on ne les connaît pas, en fait.
Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Sinon, je donne la parole à... Oui,
oui.
Il y a juste encore une petite question.
À la littérature, donc, parce que je parle de cinémateur, donc je vais passer à la littérature. Peut-être que je me trompe, mais j'ai le sentiment que malgré les avancées féministes, on avait, bon, Ursula Guin a écrit dans les années 60, moi j'ai lu La main gauche de la nuit, ça doit être en 75, un truc comme ça. J'ai le sentiment quand même que dans des étiquettes science-fiction un peu plus récentes, des mouvements comme le steampunk, le cyberpunk avant lui, ou même l'Uchronie, j'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup d'auteurs femmes dans ces nouveaux genres, entre guillemets, qui modernisent, entre guillemets, la science-fiction par rapport au space opéra ou des choses comme ça. Est-ce que je me trompe?
Bon, il y en a quelques-uns, quelques-unes dans le cas. Voilà, dans la salle. Bon, déjà, il n'y a pas beaucoup d'auteurs femmes en général en science-fiction. Déjà. Bon. Steampunk. Bon, le steampunk, pour l'instant, effectivement, pas tellement. Mais le steampunk est un genre très bizarre et qui est très. Ce qu'on appelle métatextuel. Donc, c'est un genre qui suppose. C'est un exercice de style, en fait, le steampunk. Voilà. Cyberpunk, non, vous avez Sylvie Denis. Bah, vous avez madame. Un petit peu dans l'influence cyberpunk, en tout cas. Des trucs qui font penser au cyberpunk. Ou... Bon, maintenant, on parle de nanopunk, des trucs comme ça. Vous avez plein de gens qui font... qui appartiennent un peu à cette esthétique-là. Alors, après, plus ou moins... Alors, si on veut du steampunk, du cyberpunk pur à la Gibson, vous n'avez pas. Mais... Voilà. Mais dans Jardin virtuel de Sylvie Denis, vous êtes inspiré par le cyberpunk. C'est pas du cyberpunk à la Gibson. C'est pas cette lourdeur géniale, par ailleurs, du neuromancien. Mais vous avez quand même un univers steampunk. Et puis vous avez une esthétique, vous avez une sensibilité particulière. Et encore, là, on parle... Là, je vous parle en plus en France, mais après, aux États-Unis, il y a un nombre incalculable de romans qui ne sont pas traduits, par exemple. Donc, on ne découvre pas en France. Hein, sauf si on lit l'américain. Au Canada, il y a quand même pas mal d'auteurs qui travaillent là-dessus. Et surtout, peut-être que... Après, on va dire 150 ans d'existence du genre, si on veut vraiment faire assez large, c'est peut-être moins important d'être cyberpunk ou steampunk. Oui. Vous écrivez. Je pense à Mélanie Fazi en France qui écrit des trucs qui ressemblent à du fantastique SF horreur bizarre. Voilà. Et, alors, elle est publiée en SF parce qu'elle a commencé à écrire des nouvelles SF, puis c'est bon. Mais elle est dans quelque chose qui est beaucoup plus hybride. Et peut-être que ça, c'est d'ailleurs un truc qui serait intéressant. C'est de voir dans quelle mesure est-ce que les auteurs femmes, mais ça je sais pas, font plus d'hybridité générique en fait, travaillent plus sur des esthétiques que de s'affilier à un courant. Mouvement cyberpunk, moi quand on lit Mozart envers miroir, je sais pas si vous avez lu ça, il y a un avant-propos manifeste du cyberpunk, puis vous avez Sterling qui dit ça c'est le cyberpunk, puis on va faire du cyberpunk.
C'est peut-être se situer comme ça.
Et puis, bon, c'est compréhensible, il se démarque de la new wave anglaise, etc. Mais il y a vraiment cette idée, on va faire ça, quoi. Puis maintenant ça va être bien. C'est bien. Mais vous êtes très vite cyberpunk, quoi. C'est que le fait de travailler plus sur les mélanges de genres, qui moi, m'intéresse beaucoup plus, genre alors la littéraire, alors peut-être que là, on aurait, je sais pas, j'en sais rien, ce sera intéressant de voir si les auteurs femmes se sentent moins habitées par un genre, mais travaillent plus sur une esthétique. Toi, je sais que chez Mélanie Fazi, ça se voit à fond, vraiment. Mais je crois que d'ailleurs c'est aussi une des choses qu'on lui reconnaît facilement, mais aussi plein d'autres auteurs. Et je connais pas assez bien ce que vous avez écrit. Alors tutoyons-nous. Alors je connais pas très bien ce que tu as écrit puisque j'ai acheté il y a pas longtemps quelques livres. Mais je me réjouis de voir dans quelle mesure est-ce qu'il y a de l'hybridité générique.
Alors juste encore la toute dernière question. En fait, c'était ah oui madame.
Non c'était.
Ouais, C'était au fait la maison d'ailleurs et les femmes dans le futur.
Il y a beaucoup de choses. Bon, ce qui est sûr, c'est que la place. Alors, pour moi, l'important, c'est ça. C'est que la maison d'ailleurs a pour but de faire rayonner en Suisse et à l'étranger la science-fiction. Ou plutôt l'esthétique de la science-fiction. Sans, en tout cas, pour moi, sans distinction de genre. Femme ou homme. Mais là aussi, pour but de faire connaître le matériau, hein, les matériaux. Donc, bon, moi, je suis le premier à dire « Ok, science-fiction, féminisme, en exposition. » Mais j'aimerais bien trouver des femmes qui font de l'esthétique de science-fiction au niveau non pas littéraire, parce qu'on peut exposer 1000 livres, et puis voilà, puis on sera content. Mais au niveau de l'art, hein, c'est pas si simple à trouver. Donc, des gens qui font... déjà qui rentrent dans la maison d'ailleurs, il faut quand même il y a de la surface, donc il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui rentrent dans l'esthétique. Moi, j'en connais pour l'instant peu, par exemple. Au niveau des romans, c'est très facile parce que nous, on a vraiment beaucoup de romans féministes. Et puis après, il faut des choses qui n'ont pas déjà été faites. Et puis après 3 mois d'engagement, j'ai de la peine à me dire voilà, hop, science-fiction et femmes. Par contre, je pense que ça serait intéressant parce que ça, c'est un des grands clichés qui reste, c'est que les femmes ne s'intéressent pas à la science-fiction, alors que il y a un groupe qui s'appelle Science-Fiction Suisse Romande qui se réunit en Genève et Lausanne. Et puis moi je suis sur la mailing list, alors je vois toujours les gens. Et il y a plein de femmes et c'est génial de se dire cool. Il y a des gens qui. Parce qu'on a ce cliché, la science-fiction c'est une littérature de mecs, comme le polar un peu. Et encore le polar ça se démocratise un peu plus. Donc moi je sais qu'un des rôles de la science-fiction, de la maison d'ailleurs, pardon, ça serait de pouvoir imaginer, plus montrer que la science-fiction c'est aussi des femmes. Et, alors peut-être par ce genre de manifestation comme maintenant, c'est-à-dire en invitant des auteurs femmes. Moi, j'aimerais bien inviter, par exemple, les auteurs femmes actuelles en France.
Parce que moi, quand j'ai vu la maison d'ailleurs, j'ai regardé sur Internet, il y a quasiment que... c'est pas dit que c'est tout le monde, parce qu'il y a quasiment que du masculin au niveau des écrivains, au niveau des plasticiens, etc. Et puis, c'est peut-être effectivement une question de catégorie, parce que les femmes, peut-être qu'elles n'aiment pas vraiment nécessairement, s'accrochent beaucoup à des catégories. Mais, par exemple, moi, je ne sais pas très bien, dans une maison d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire être, par exemple, artiste plasticien science-fiction. Je veux dire, par exemple, l'art contemporain, est-ce que par définition, une grande partie n'est pas déjà un peu dans un imaginaire? Enfin, c'est-à-dire, c'est difficile à dire, est-ce que les artistes plasticiens qui disent, moi je suis artiste plasticien science-fiction.
Oui, hier j'étais par exemple dans une école du Valais qui s'appelle l'EPAC et qui a travaillé sur un projet qui s'appelle Imaginary Landscapes. Qui était vraiment ancré science-fiction, on imagine les paysages de demain. Puis il y a des hommes et femmes qui ont fait des tableaux.
Ah, d'accord.
Enfin, des tableaux, c'est des projets d'étudiants, en fait, mais ça fait des tableaux. C'est soit, oui, soit vous faites une expo SF féminisme, c'est-à-dire que la question du féminisme, elle est pertinente, parce que c'est exposer une artiste femme, rien contre. Soit vous faites une expo sur quelque chose, et puis là, la question du féministe, elle est plus importante. Donc l'idée, c'est moi, je serais plus intéressé par SF et féminisme, c'est-à-dire les questions que pose la SF sur la question homme-femme, que par une artiste femme. Moi, je, franchement, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois. Que ce soit femme ou homme, franchement, là, mon « je », il n'est pas très...
C'est-à-dire que
mais je comprends l'idée.
Voilà, pour nous, c'est aussi une question d'une manière générale, c'est d'avoir une proportion plus importante au niveau des écrivaines et des artistes plasticiens qui soient sollicités en tant que tels. Hein. C'est-à-dire que c'est pas toujours que ça doit avoir comme thème le féminisme, parce que ça restreint si les femmes sont seulement invitées quand il y a du féminisme. C'est-à-dire que c'est un peu... Voilà. Mais bon, ça, c'est quelque chose à voir dans le film.
Mais SF féministe, c'est quand même assez intéressant. Parce que sûrement, les questions soulevées sont, mon avis, des questions qu'on n'imagine pas être soulevées par la science-fiction.
Tout à fait.
C'est intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé vous entendre sur ces questions-là. Et je me disais, mais est-ce que la raison pour laquelle on trouve moins de femmes dans la science-fiction, est-ce que c'est pas parce qu'elles sous-estiment la puissance de la distanciation pour aller interroger l'humain? Et que finalement, la femme procède par implication émotionnelle souvent, alors que l'homme, dans sa distanciation, cherche à interroger le réel. Et qu'il y a une sorte de différence là qui vaudrait la peine d'ailleurs de questionner.
Bah, c'est la sorte de séparation des cultures, un peu. La science-fiction a toujours été masculine pendant longtemps, mais aussi pour des raisons de diffusion du genre. C'est que les magazines dans lesquels, aux États-Unis, on parlait de la science-fiction étaient plutôt des magazines qui étaient. J'ai déjà vu des pulps. Si vous n'avez pas vu de pulps, il faut venir à la maison d'ailleurs. Vous comprendrez pourquoi c'est plutôt masculin. C'est-à-dire qu'on mobilise une iconographie ou une imagerie qui est très. Pas machiste, parce que c'est pas toujours ça, mais qui est très masculine, hein, vaisseaux spatiaux, aliens, violence, etc. Mais aussi parfois un peu femme soumise, mais qui va aussi avec l'air du temps, c'est pas non plus ultra impressionnant. Donc finalement, on a plutôt axé. C'est comme les gens qui lisent la littérature d'horreur, hein, pendant longtemps c'était plutôt des garçons, les comics, hein, les super-héros, etc., c'est plutôt des garçons. On a une sorte de puis la science, c'est assez garçon. Hein. Les deux cultures de Snow, c'est ça. Hein. Vous êtes un garçon, intéressé à la science. La science-fiction, ça va. Fille, vous n'allez pas lire de la science. C'est pas très intéressant. Et le problème, c'est que la science-fiction, c'est une littérature du XXe siècle. Donc, elle a aussi subi cette espèce de collusion, pardon, cette séparation des cultures. Aujourd'hui, je pense que c'est différent. Mais on garde le cliché, parce que ça fait 100 ans qu'il y a ce cliché. Il ne va pas changer, parce qu'on se dit, bon, maintenant, c'est le moment que ça change. Alors, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est dire de la science-fiction, puis faire de la pub. C'est ce qu'on fait d'ailleurs à la maison. Mais c'est vrai que je...
Qu'on traverse le cliché et qu'on va au-delà. En fait.
Ah oui, alors là, ça devient bien. Ouais.
Ça devient intéressant. Ouais. Et c'est le cas de tous les clichés. C'est le cas du genre comme la science-fiction, mais c'est même le cas des clichés religieux, par exemple. Et là, toute tradition, finalement, une fois qu'on la traverse et qu'on va au-delà, peut permettre de re-questionner.
Oui, alors le cliché, même quand vous êtes littéraire puis que vous travaillez sur la science-fiction, en Europe, il y a un cours systématique sur la science-fiction, qui est le mien. Voilà, quand vous travaillez en votre littéraire, vous travaillez sur la science-fiction, on vous dit, moi j'avais un prof qui m'avait dit une fois, enfin un prof, un collègue m'a dit, bon, une fois que tu as fini ta thèse sur la SF, tu fais quoi de sérieux? Ah, je trouvais ça marrant. Alors, je lui ai demandé combien de livres il avait lu de science-fiction, il m'a dit 5, je dis, ah, bon. C'est comme si vous prenez 19e, puis vous prenez 5 auteurs obscurs du 19e siècle, vous dites, ah, 19e siècle, c'est n'importe quoi. Donc le cliché, il marche dans tous les sens, il marche pas que homme-femme. Il marche aussi même à l'intérieur du champ littéraire.
Alors, merci beaucoup. Alors,
merci à vous.
C'était très intéressant. On continuera à discuter au cours de la verrée tout à l'heure. Voilà, alors j'invite Sylvie Léger.
Oui, bien sûr.